Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 23.
Ah, qu'il fait bon être chez soi.
Que la chaumière vous évoque une bonne soupe aux légumes ou un pain partagé en famille, le cocon dans lequel nous vivons est un microcosme plein de rebondissements.
Dans ce 23e épisode, Aube s'est penché sur le concept d'habitation, sur la construction écologique et sur tout ce qui touche de près ou de loin notre sentiment de confort et de sécurité.
Au sommaire, un reportage sur les mini-maisons,
la représentation de la maison dans le cinéma d'horreur,
une capsule sur le logement social et sur l'itinérance,
et Marie-Claude Journaud qui nous transporte au gîte La Guinguette, tout près du Mont Mégantic.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, chaumière. Je sais pas si c'est parce que j'avais passé la journée en studio, coupé du monde, mes écouteurs sur la tête. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai passé tout droit devant la bibliothèque. Malgré la nuit qui tombait, le vent pis le froid, j'ai décidé de rentrer à pied. J'avais le goût d'être dehors. Je savais que peu importe mes errances, mon itinéraire finirait dans le confort de mon petit appart. Faut croire que j'avais la tête ailleurs parce que j'ai pris des chemins que je connaissais, puis pourtant, je me suis perdu. Il n'y avait personne pour m'aider. Au centre-ville, à cette heure-là, malgré ce que pourraient laisser penser les lumières encore toutes allumées, les bureaux sont inhabités. J'ai eu peur un moment. Faisait noir, puis j'étais perdu. J'ai eu le goût d'appeler un ami, sauf que mon cell avait plus de batterie. Je savais que peu importe mes errances, mon itinéraire finirait chez nous à raconter ma soirée à ma coloc incrédule. Entre deux logos de banque puis de compagnie d'assurance, j'ai fini par apercevoir la croix sur la montagne. J'étais sur le bon chemin, mais j'étais encore loin puis j'avais faim. Il n'y avait rien à manger. Quand les travailleurs ont quitté après la journée, même les sandwichs secs du Starbucks ont été jetés. La dernière fois que j'étais descendu, mon père avait fait de la soupe. J'étais remonté avec plein de pots maçons. J'étais affamé, mais je savais que peu importe mes errances, mon itinéraire allait me ramener à mon garde-manger. J'espérais juste que les couvercles n'étaient pas trop serrés, parce que j'avais les doigts gelés puis ils s'étaient mis à mouiller. J'étais vraiment fatigué puis j'avais nulle part où m'arrêter. Je me suis buté le nez sur une porte barrée. L'enseigne ouverte n'avait pas été retournée. J'allais finir trempé. Je pensais déjà à la douche chaude puis à la tasse de thé qui m'attendait. J'étais tellement recroquevillé dans mon manteau, j'aurais paru presque invisible à tous ceux que j'aurais croisés. J'avais juste un petit peu de change, une poignée de monnaie, quelques sous, juste assez pour prendre le bus, qui est arrivé juste au bon moment. Il n'était plus question d'errer. Je laissais le chauffeur suivre son itinéraire pour me ramener. J'avais des draps dans la sécheuse. J'allais retrouver une amie, une soupe chaude, un bain puis un lit. Je m'étais perdu dans la jungle au centre-ville. J'avais affronté le froid et la pluie. J'étais vraiment content de retrouver un abri.
Le phénomène des mini-maisons n'est pas nouveau. Une série télé documentaire existe même aux États-Unis du nom de Tiny House Nation, disponible assez facilement sur les internets. Ce mouvement a pris de l'ampleur au Québec cette année avec la tenue du premier festival des mini-maisons à Lantier, dans les Laurentides. Aube s'est invité de la fête pour récolter les expériences des premiers pionniers du micro-mouvement.
Nous, on est à Saint-Germain-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent.
Mon nom est Charles Meilleur. Nous, c'est série Saint-Meilleur et fils dans les Laurentides. On a une série de cèdres qu'on construit toutes avec nos propres matériaux.
Certains concepts de mini-maisons sont déplaçables et donc montés sur une remorque. C'est le cas de la boîte à caresses de Catherine Duval et Pascal Dubé de l'entreprise Ma Maison Logique, située à Kamouraska.
Nous, toute la conception est faite pour que la maison soit le plus efficace possible. Donc, toutes les fenêtres sont des fenêtres triple verre trempées pour la route.
Elle n'arrive pas en pièces détachées, elle arrive tout assemblée. Tout assemblée. Comme lundi, quand on est venu installer la maison, on s'est timé là, du début jusqu'à la fin. Ça nous a pris 22 minutes débarquer de la remorque et se mettre de niveau. Mais c'est sûr que chaque place... Là, ici, on est dans une grande place à air ouverte. On est arrivé, on a pu prendre un grand détour puis se placer comme il faut. Soit en forêt ou sur des terrains, des fois, il y a des arbres, il y a des roches. Il faut planifier en conséquence, là. Mais tout se fait, là.
Si celle-ci, on ne l'a pas conçue pour qu'elle soit déplaçable, on ne partira pas en voyage faire le tour du Canada avec ce modèle-ci. Par contre, il y a moyen de concevoir des modèles un peu plus petits puis qui puissent être plus légers puis plus transportables.
Quelques terminologies à connaître. Un pied carré correspond approximativement à une tuile standard sur le plancher d'une salle de bain standard. Le BTU est une unité de mesure pour calculer la chaleur dégagée, par exemple, par un poêle ou un foyer de masse.
Ouais, nous autres, on n'avait pas de problème. Le trailer, dans le fond, on l'a dessiné et on l'a fait fabriquer selon nos besoins pour diminuer les ponts thermiques entre le trailer et le plancher. On n'a aucun contact avec du structurel, que ce soit au plafond, le mur, le plancher, avec un élément extérieur. Donc le trailer est complètement isolé de la structure. Ouais.
Ben la maison va être orientée de sorte qu'on a la vue de la mezzanine vers le fleuve, puis la vue à partir du salon vers le fleuve également. Fait qu'elle va être en oblique pour qu'on ait le fleuve dans les deux directions.
L'idée du chauffage au solaire passif n'est pas nouveau, surtout en milieu nordique.
Maison passive solaire, on n'a pas chauffé une journée l'hiver. On a chauffé tous les soirs, toutes les nuits, c'est sûr. Mais le jour, on n'a pas besoin de chauffer, on ouvrait les fenêtres parce qu'on surchauffait. Donc, il faut respecter les ratios des maisons passives solaires. Il ne faut pas mettre plus que 12% de fenêtres au sud par rapport à l'espace plancher. C'est trop, ça chauffe, c'est incroyable.
C'est quoi la source de chaleur?
C'est les fenêtres. Les fenêtres, la conception de la maison, l'orientation, l'isolation, la forme du toit, passer le vent, la quantité de fenêtres au sud, c'est tout pensé.
Pour la fenestration, c'est toujours les mêmes choses comme ça. Parce qu'on a fait, quand plus on met des grandes fenêtres, plus on affaiblit notre mur. Là, on transporte ça sur le chemin. Fait qu'on essaye de donner le plus de rigidité possible là, à notre bâtisse. Mais sinon, à l'intérieur des murs aussi, on a des armatures de métal pour justement, pour pas que la bâtisse, excusez-moi l'expression, mais racle sur le chemin. Fait que c'est pour ça que les fenestrations sont comme ça.
Pour savoir combien de BTU on avait besoin pour chauffer en hiver à moins 32, on avait besoin de 6000 BTU, puis le poêle à bois est capable de pousser 6000 à 14000 BTU. Donc à partir de là, on est correct, sans problème. Puis de toute façon, on crée toute de l'énergie, de la chaleur, nous autres, en fonctionnant. L'espace est tellement petit, puis tout reflète la chaleur, tout accumule la chaleur. On est tout en bois, donc ça a une certaine masse thermique, c'est pas énorme. Exactement. Non, nous autres, on est plugés directement, mais il y a possibilité. On a gardé de l'espace sur les batteries, tout ce qui est convertisseur, ordinateur, tout ça.
Pour contourner plusieurs réglementations désuètes, certaines entreprises ont appris les règles afin de pouvoir les contourner correctement.
En ce qui a trait les abris forestiers, on est chanceux au Québec. Il y a déjà des lois déjà faites pour ça. Il y a certaines dimensions que certaines municipalités acceptent des plus grandes dimensions, comme le 12-20, d'autres c'est 12-16. La mesure, c'est entre 20 et 25 mètres carrés pour les abris forestiers. Puis l'avantage de ça, ici, le nôtre, il n'y a pas d'eau courante, parce qu'un abri forestier, selon la loi, doit être dépourvu d'eau courante. Mais comme dans le coin ici, il y a l'espace déjà exprès pour recevoir un évier par l'après. Fait que là, on va mettre un drain qui va aller direct en bas pour les eaux grises. Fait que ça, on a le droit. Mais c'est pour ça que nous, on ne met aucune eau courante. Ça va être plus facile d'accès dans les municipalités versus les mini-maisons.
Donc toi, tu construis des maisons, des abris forestiers.
Des abris forestiers et non des mini-maisons.
Donc cet abri forestier-ci, c'est combien de... c'est quoi la dimension?
Ici, on a une 12 par 20 qui a 240 pieds carrés, qui vient tout équipé avec frigidaire, four, chauffage, lumière au propane. On a un système de panneaux solaires de 250 watts. Tout fini en dedans et en dehors en cèdre blanc du Québec. Comme celle-là ici, ça se détaille 25 000 $ tout équipé.
La limite de hauteur pour la circulation sur la route, c'est 13 pieds 6 pouces. Nous, on a 13 pieds 4, on est allé chercher le maximum. Puis en largeur, la limite, c'est 8 pieds 6, puis on atteint la limite. Là. Fait qu'on est allé vraiment chercher le maximum du possible.
C'est plus long à construire là, en autoconstruction assistée. Quand tu ne sais pas d'avance qu'est-ce que tu fais, mais un entrepreneur général peut faire ça en 3 ou 2 semaines. Ça coûte bien moins cher aussi si tu le fais plus vite.
Là, c'est une construction qui a débuté le 12 juin dernier, donc par ma maison logique, nous-mêmes. Puis c'est un modèle, le prix fixe, le prix n'est pas fixé encore puisque la construction vient juste de se finaliser, donc on n'a pas le total, mais on est capable de dire quand même que ça se creuse aux alentours de 50 000 $ avec tout ce qui est fixe en place, le petit poêle à bois, etc. On a une petite terrasse de 8 par 8 qui nous offre la possibilité d'avoir une petite, un petit coin assis avec une petite table. Mais c'est sûr qu'éventuellement, nous, l'été, c'est dehors. Fait que barbecue, tous les repas se font sur barbecue. Fait que ça sera pensé, amené au concept. Ça, on a la table qui vient du mur, qui descend. On a les banquettes amovibles qui peuvent s'installer de sorte qu'on peut recevoir plus de gens autour de la table. La banquette principale qui est fixe et la banquette secondaire sont des banquettes qui s'ouvrent puis qui nous offrent du rangement. Mais également, la banquette principale s'ouvre, se déplie puis nous offre un lit secondaire pour accueillir les amis parce que c'est pas parce qu'on habite dans le petit qu'on n'a plus d'amis.
Pour en savoir plus sur les mini-maisons, visitez la page Facebook Mini-Maison Québec et le site du Festival des mini-maisons qui comporte de nombreuses références sur les concepteurs et les promoteurs au Québec.
Une grosse maison où vous passerez votre vie à payer. Est-ce que ça vous branche? En plus, faites de matériaux polluants, peu sains et coûteux. Eh bien, les alternatives sont possibles. On a déjà parlé des tiny houses, elles en sont l'exemple le plus manifeste actuellement. Une volonté de s'affranchir des règles de l'hypothèque traditionnelle est en marche depuis 2008 et ça ne semble pas près de s'arrêter. Pour ceux qui souhaitent construire une maison et penser cette étape comme un véritable projet, plusieurs sites sont là, à portée de main, pour connaître à la fois les réglementations, les fournisseurs et les architectes qui ont une autre pratique de la construction. Le Conseil du bâtiment durable, par exemple, regroupe des acteurs de changement de la construction et de l'aménagement, animés par la même volonté de changement dans les pratiques. Et si vous souhaitez aller au cœur du sujet, la construction, le site Écohabitation recense tous les outils indispensables pour construire une maison ou même un écoquartier selon les principes de l'écologie durable. À la fois certification éco-entrepreneur pour les constructeurs qui souhaitent connaître les réglementations, des exemples de maisons passives, vous pouvez même aller visiter des maisons qui ont repensé totalement leur construction. Il y a également un annuaire d'architectes et d'entrepreneurs. Bref, Écohabitation va vite devenir ton meilleur ami.
Texte et narration d'Aurélie Superchico.
La neige caresse le rebord de ma fenêtre, you know? C'est comme, genre, sensation intérieure de bien-être. For sure.
That's right, G. Va me chercher mes pantoufles dans sécheuse. Do you feel me?
Yeah, c'est ça que je vais faire. Mais toi, tu bouges pas.
Je suis à peine réveillé, mais je suis pas pressé. Je resterai toute la journée à briller dans mes droits santé. Je feel zen, I'm zen, j'ai envie de me ressourcer. J'invite mes homies, puis on va se dorloter. On est mollo, you know. Sauf que je décroche mon téléphone. Je me guette un bon bain chaud avec la mousse aux pommes. Mon chum se cale une tisane comme un motherfucking bum. L'autre fait des flatouilles avec mon gros magnum. Say what, je prends ça off, pas question que je sorte. Je place deux morceaux de casse-tête, j'arrête là, il est trop tard. J'ai un lampion, bitch, il faut que ça sente bon.
Une odeur.
Blaze it up, come on.
Je me sens comme un gros lâche. Coconuta, je filerai pour être en flamme. Coconuta, du cini du poulet, yeah.
C'est coconing time, appelle-moi pas, dérange-moi.
On est du pain chez
you. On est quel jour? On s'en fout. Chilling en jogging, pas le feeling d'être stressé. J'enlève ma bulletproof vest pour siester après le dîner. Si tu te sens pas vaillant, comment viens t'évacher? On se raconte nos rêves, étendus devant le foyer. One love à ma mijoteuse, ça sent bon dans mon cocon. Mes petites patates sont laid back dans un bœuf bourguignon. Mon chat se liche en faisant des ronrons. Motherfucker, tu peux te promener tout nu dans maison. Mes bottes laines sont sur le calorifère, ça va les rendre hot. En mitouflé devant TV, on bécote des biscottes. Se retrouver intérieurement, ça c'est important. Today je traîne de la pâte. Je reste sur le divan.
Coconut time, pas de bobette dans mes jeans. Coconut time, je tisse la porte ouverte. Coconut time, une journée pour être enceinte.
C'est coconut time, appelle-moi pas, dérange-moi. On est du pêche.
On est quel jour?
On s'en fout. Coconut time, you know what time it is.
On fait rien, that's right. On se rase pas pis on se lave pas.
Parle pour toi, hein? C'est pas parce qu'on est relax qu'il faut être sale.
Yo, easy, Benji.
Pas besoin d'être en beau fusil. Ah, sorry, G. J'sais pas ce que j'ai, j'suis tendu. J'ai comme le trapèze à vif, bitch.
Check, je sais ce qu'il te faut, t'as plein de tension dans le dos, man. Si je te fais ça comme ça, ça va, gangsta?
Hell yeah, ça fait vraiment du bien.
Good, j'suis content. Pis regarde, Delicious va te masser les pieds comme s'il y avait pas de lendemain.
Yeah, it's cocooning time, motherfucker, motherfucker.
Shit, man, journée de rail.
J'ai trouvé ça intéressant que tu choisisses le mot chaumière et non pas maison ou habitat.
Mm-hmm.
Alors j'ai fait ma petite recherche et en fait, la chaumière, finalement, c'est plutôt un habitat de type rural, modeste, voire même pauvre, d'après ce qu'ils disent. Et quand on pense chaumière, on pense aussi feu de cheminée, on pense réconfort, on pense étroitesse d'espace, mais l'essentiel, en fait, dans l'espace.
Mm-hmm.
Et si tu avais dit, par exemple, demeure ou château ou je sais pas, un autre titre ou condo, on n'aurait pas du tout eu cette image qui viendrait en tête. Ça veut dire qu'elle sert au confort de base, à la sécurité. C'est l'endroit où les gens allaient finir leur journée, manger, stocker un petit peu certaines choses, vivre en famille.
On sent l'odeur aussi du repas.
Voilà, c'est que quand on rentre à la maison, on a fini notre journée dans les champs et puis on vient se poser là.
La chaleur du foyer, l'odeur de la
fumée. Voilà, chaleur du foyer, mais de la famille aussi, je pense que c'est important. Chaumière, on imagine rarement quelqu'un de seul.
Ta demeure est là où ton corps et ton cœur se sentent bien le plus souvent. Ce qui compte, c'est d'être bien là où on a choisi de vivre, où il y a assez de tranquillité, de chaleur, d'air pur, de lumière, d'espace et si possible, d'y vivre en bonne compagnie. Et oui, le rêve de la famille nucléaire a ses limites, hein, papa, maman, deux petits, est fini de toute façon vers le mi-temps de notre vie, quand les petits s'en vont et construisent à leur tour leur propre nid. Mais même un tout petit espace, une chambre de bonne sous les combles ou un tiny house dans le bois peut constituer un paradis. C'est sûr qu'il faut un accès à l'air libre, à la lumière et au soleil, car ça aide au physique autant qu'au moral, surtout l'hiver.
If you feel like going hunting, where should you now?
Qui est heureux dans un recoin obscur au sous-sol, plein de moisissures et de bruit au-dessus de la tête? Hein? Ou pire, l'hiver dans la rue. C'est inacceptable nos jours de laisser se geler de jeunes Inuits comme mon ami Lei Mika en janvier au métro Atwater. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir un local tout simple avec des toilettes, un lavabo comme le dernier recours? C'est sûr, côté maison, habitation, les plus riches ont du goût et s'approprient les plus belles maisons. En nature, les plus grands terrains avec vue à Westmount, à Shefford ou à Bromont. Et les pauvres ne peuvent plus à la longue supporter les paiements, les imprévus d'une maison bien située à la campagne, avec tous ces bris imprévus, les nombreuses taxes, l'entretien, l'hypothèque, le déneigement. Mettez-en. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir plus et mieux, plus grand, plus agréable à vivre, mieux situé? C'est de partager, hein, en colocation. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, même à mon âge, donc la cinquantaine passée, ou nos jeunes dans Hochelaga ou dans Villeray. Sinon, si on veut vivre à la campagne, des éco-villages, hein, ou sinon des condos partagés, des maisons multigénérationnelles. Ainsi, en harmonie, en bonne intelligence, une répartition intelligente des charges et des tâches, certainement nous vivrons mieux et plus heureux pour les années à venir, hein? Surtout quand on est plus fragile et âgé, mais avant ça aussi, pour suer moins et avoir plus de plaisir à partager nos individualités, nous endormir, nous réveiller dans la bonne humeur, dans notre home sweet home.
Un texte de Annie Schneider, du nom de Chaumière, Foyer, Demeure.
J'aimerais tout le temps être chez moi. Déguster l'ivresse à domicile d'une douce mélancolie qui frappe l'esprit uniquement les jours de pluie. Mais il en est autrement lorsque l'on est penseur, philosophe, humain, entre autres choses. Tout nous pousse loin de notre demeure, nous exhorte à l'action et condamne l'ascète. Nous joignons nos efforts au sournois acharnement d'une ville ou d'une société accrue sous la houle brumeuse de terribles artisans. L'argent en est le fer de lance et sa rampe est lancée, le bien commun. Que faire contre une arme qui elle-même vint percer sans résistance aucune le flanc d'un prophète et qui nous tire loin d'un havre personnel que chacun a mis tant d'années à bâtir et autant à chérir? Rien. Tout simplement, nous ne pouvons rien y faire. Personne ne peut résister à une telle énergie. Tout avance et se bouscule même chez nous. Du dedans au dehors, le vent souffle à jamais contre la nuque de l'homme. Il en frissonne, mais son esprit peut décider de faire de ce souffle l'âcre expiration d'un funeste démon, ou au contraire, la paisible et pourtant tempétueuse mélodie du changement. Tient à nous d'imaginer assez fort dans les recoins ombrageux de nos pénates, le diable ou la muse. S'amuser de ce fer qui à jamais nous tient pour acquis et libérer nos yeux au-delà de notre devoir pour simplement ne plus imaginer qu'un vent porté, étendu vers l'avant, dont nous sommes la perle.
Maison, la chaumière, il fait froid, il neige dehors, et on est à l'intérieur, au chaud. Le feu crépit dans la cheminée, on s'est préparé un bon chocolat chaud, et on va regarder un bon film, chez soi, le bonheur. Car oui, dans l'imaginaire commun, la maison, la chaumière a ce côté agréable, ce côté réconfortant, chaleureux. On n'est jamais aussi bien que chez soi, entend-on souvent. Déjà Homère, dans l'Odyssée, nous montrait un personnage qui, malgré toutes les aventures qu'il vit, ne souhaite qu'une seule chose, rentrer chez lui, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors même si c'est la séparation entre la maison et le travail à l'époque de la révolution industrielle qui a donné au chez-soi ce côté agréable synonyme de bonheur, force est de constater que depuis toujours ou presque, la chaumière est un lieu réconfortant et protégé dans l'imaginaire collectif. Et devinez quel est le lieu favori, privilégié de la plupart des films d'horreur. La maison. La chaumière, justement. Et c'est exactement le sujet de Poltergeist, le film de Toby Hooper, sorti en 1982. L'action ne se passe pas dans un château gothique perdu en plein milieu de nulle part, ni dans une grange dans la campagne reculée, mais dans une charmante petite maison d'un quartier résidentiel américain où toutes les maisons sont absolument identiques. En quelque sorte, cette maison, elle ressemble à la maison de tout le monde, elle ressemble à votre maison. Mais elle devient le lieu de phénomènes de plus en plus étranges et horribles, qui font qu'elle passe du statut de lieu rassurant à celui de lieu effrayant. Mais si on y réfléchit bien, ça n'a rien de nouveau, car rien ne nous fait plus peur que ce qu'on croit connaître. Qu'y a-t-il de plus effrayant entre un terrain vague peuplé de créatures étranges qui ne ressemblent à rien de connu et une copie parfaite de votre maison, de votre appartement, mais avec quelque chose d'étrange, avec quelque chose d'anormal? Vous n'arrivez pas à savoir quoi, mais vous savez que quelque chose ne va pas. Et là reposent les bases de l'inquiétante étrangeté théorisée par Freud en 1919. D'ailleurs, inquiétante étrangeté, la traduction est belle, mais pas exacte. En allemand, Sigmund Freud parle de Heimlich. Heim signifie en effet la maison, le foyer. Mais le préfixe qui est l'équivalent de notre « dé » français, comme dans « délocalisé »,« dégelé » ou « déridé », ajoute quelque chose d'étrange et de dérangeant au terme. Je connais cet objet, je connais cet endroit, mais il a quelque chose en lui de bizarre, quelque chose qui n'était pas là auparavant et qui est totalement inconnu. Heimlich définit les bases de la plupart des histoires d'angoisse. Et c'est sur ces fondations qu'est construite l'une des plus fameuses séries des années 60, la quatrième dimension de Twilight Zone. Dans un des épisodes les plus fameux, le personnage principal se réveille dans un quartier similaire au sien. Une banlieue américaine comme dans Poltergeist, des maisons toutes semblables. Sauf que tout est parfait, trop parfait. Les pelouses sont trop vertes, les rues sont trop propres, les gens sont trop gentils. En soi, il n'y a rien d'étrange, mais c'est cette absence d'imperfection qui rend cela justement très dérangeant. C'est d'ailleurs, souvenez-vous, l'étrange perfection du monde dans lequel il vit qui fait se rendre compte à Truman Burbank que tout est faux dans son monde dans le film de Truman Show. Mais quand ce n'est pas la maison elle-même qui est étrangéisée, hantée ou possédée, cela passe parfois par un intrus, par un personnage souvent malveillant et qui vient à tout moment pervertir le côté rassurant de la chaumière. Cela peut être de méchants cambrioleurs, comme dans Maman, j'ai raté l'avion, dont le nom original est Home Alone, seul à la maison, ou bien une poupée maléfique hantée par l'esprit d'un serial killer, comme dans la saga Chucky. Car c'est souvent comme ça que fonctionne l'inquiétante étrangeté au cinéma, la transformation de quelque chose de rassurant en quelque chose d'inquiétant, pour mettre au jour ce que la chose rassurante cache ou nous permet de cacher. Dans la plupart des films d'horreur basés sur ce principe, en effet, le malheur ne vient pas par hasard s'abattre sur de pauvres gens. Il est le plus souvent métaphorique d'un mal extérieur, comme le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles dans It Follows, le récent film de David Robert Mitchell, ou d'un mal intérieur que l'horreur permettra ou non d'expier. Et c'est la puissance cathartique que peut avoir l'horreur pour les personnages dans la fiction, ou plus généralement pour le spectateur lui-même. Ainsi, quand on prend un film comme Carrie de Brian De Palma, qui raconte l'histoire de Carrie, une jeune fille maltraitée et méprisée par tous ses camarades de classe et qui se découvre des pouvoirs surnaturels, l'horreur quotidienne que subit le personnage avant que ne surviennent les événements surnaturels est horrible pour le spectateur, mais elle n'est pas horrible pour Carrie. C'est son difficile quotidien. Et ça prend vraiment tout son sens dans les scènes qui nous montrent justement la maison où vit Carrie et sa mère. Celle-ci est à l'inverse de tout ce qui pourrait sembler agréable et rassurant. Elle est très sombre, elle est éclairée d'une manière particulière qui la rend étrange, glauque et qui met le spectateur mal à l'aise. Ce qui annonce déjà, inconsciemment pour le spectateur, l'horreur qui va se passer dans cette maison plus tard dans le film. Et on redoute d'ailleurs, en tant que spectateur, les scènes qui se passent dans cette maison. Mais cette horreur-là est imperceptible pour le personnage de Carrie. Elle n'affecte que le spectateur qui, par un processus d'identification, imagine comparativement sa maison et celle de Carrie et se dit qu'il préférerait être chez soi. Ce n'est pas un hasard alors si les films d'horreur sont toujours plus forts quand on les regarde depuis chez soi. Le crépitement du feu de cheminée est maintenant trop fort, dérangeant. Le chocolat chaud semble avoir pris une étrange couleur. Et quelqu'un, quelque chose, semble se tapir dans l'obscurité de cette nuit hivernale.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu
le reportage sur les mini-maisons,
l'apostrophe de M. Tubercil avec Home Sweet Home,
une tranche de vie de Annie Schneider,
et juste avant la pause, la chronique cinéma de Pierre Charpiose,
et la musique de Benji, J.F. Trépanier et Delicious Mitchell avec Cocooning Time.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec Solution ERA.
Un reportage sur le programme Logement d'abord.
Une petite visite au gîte de la Guinguette.
Et la musique de Jean Leloup avec La Chambre.
Et pour l'instant, voici les nouvelles du front.
Le nomade serait assurément perplexe devant nos maisons deux étages avec piscine creusée. Situées à l'écart des ressources nécessaires pour notre survie, mais pleines d'espace pour jouer, recevoir les amis, se détendre et se sentir en sécurité. Évidemment, il n'est pas question de retourner vivre sans abri dans les jungles parmi les dangers. Mais les connaissances anciennes ainsi que les découvertes technologiques permettent de revoir nos méthodes de construction afin de mieux vivre, plus heureux, en meilleure santé et en harmonie avec nos valeurs. Ici Guillaume Lambe et voici les nouvelles du front. Le 21e siècle sera écologique et durable ou ne sera pas, mais notre époque sera aussi définie par une urbanisation et une densification importantes. En 2050, c'est 70% de la population mondiale qui vivra en ville. L'organisme Vivre en ville travaille à développer des collectivités viables en accompagnant les décideurs et les citoyens et met à la disposition de tous une grande diversité d'outils pour s'informer et prendre action, dont une trousse d'action vers les collectivités viables. Pour accueillir tout ce beau monde dans nos villes, des projets d'urbanisme ambitieux, à grande échelle, qui regrouperont un grand nombre de personnes sont nécessaires. Dans le sud de Londres, le Beddington Zero Energy Development regroupe 82 logements. En plus d'être un projet zéro carbone, BEDZ, c'est des logements où il fait bon vivre, offrant une exposition abondante à la lumière naturelle et plusieurs espaces verts. En France, la ville de Roubaix s'est lancée dans l'aventure du zéro déchet. La ville dont les 90 000 habitants produisent pour l'instant 243 kg de déchets résiduels annuellement se propose d'atteindre la cible de 50 kg par habitant en 2023. Pour réduire leur impact, d'autres choisissent aussi d'aller vivre dans des communautés autosuffisantes à l'extérieur des villes. Située à Amnord, dans la région des Bois-Francs au Québec, la Cité écologique, par exemple, est un éco-village où l'on se préoccupe d'éducation, de développement durable et de protection de l'environnement. Qu'on soit en ville ou dans les bois, c'est les innovations dans les méthodes de construction qui font la différence. Le projet Cohabitat Québec se base sur des choix de construction intelligents pour diminuer son empreinte écologique. Maisons orientées franc-sud, matériaux locaux et sains, design facilitant la circulation de l'air en été et diminuant les pertes en hiver, récupération de l'eau de pluie, etc., etc. Il s'agit d'une stratégie du gros bon sens, d'une combinaison de savoirs anciens, comme l'utilisation de la géothermie, et de découvertes technologiques, comme le verre à haut rendement énergétique. Tout ça agrémenté d'innovations architecturales pour faire mieux. Partout dans le monde, des citoyens développent des techniques et se regroupent pour faire émerger des nouvelles façons de se loger. Les projets sont nombreux et les approches multiples. Choisir d'utiliser des matériaux responsables, inclure du logement social, s'assurer que les transports en commun sont disponibles ou encore réutiliser des espaces désaffectés et les faire renaître. On peut aussi vivre à plusieurs dans le même logement, dans une maison multigénérationnelle, des coopératives d'habitation ou des grandes colocations. Notre maison, c'est plus qu'un abri. C'est le lieu d'une vie qui doit être en harmonie avec nos valeurs. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec les Nouvelles du Front.
Le projet Écosphère, grand festival environnemental qui rassemble deux fois par année des passionnés de tout horizon, est le lieu idéal pour faire toutes sortes de rencontres évolutives et très inspirantes. J'ai rencontré Francis Gendron de Solutions ERA, une entreprise dédiée à l'éducation, à la construction saine.
Tout a commencé, dans le fond, il y a maintenant, c'est 2012, quand je suis allé étudier à la Earthship Academy à Taos, au Nouveau-Mexique. Fait que j'ai étudié les Earthship qui, en français, là, les vaisseaux terrestres, si on voulait le traduire, là, c'est pas vraiment fait pour être traduit, là, mais... dans le fond, les Earthship, question de spécial, c'est que c'est vraiment l'aspect autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils intègrent tous les principes ensemble. C'est-à-dire, moi, tous les types de construction m'intéressent, que ce soit la paille, le chanvre, même la cellulose ou même dans les méthodes traditionnelles, il y en a qui sont très durables. Sauf que ce que je trouve le fun des Earthship, c'est qu'ils mettent tout ensemble dans un seul bâtiment qui permettait d'avoir un vaisseau terrestre, entre parenthèses, qui, lui, produit lui-même son eau, son électricité, sa chaleur et même, dans certains cas, la nourriture ou du moins en partie la nourriture. Puis, il fait tout ça juste par son interaction avec les phénomènes naturels, donc sans tirer sur une source d'énergie ou d'eau extérieure qui, lorsque tu rassembles plein de maisons comme ça qui tirent constamment, bien, ça fait un gros monstre, une grosse machine à tirer de l'énergie en permanence. Puis, c'est ça qui, je crois, peut malheureusement créer tellement de demandes qui, des fois, ça va jusqu'à des guerres ou à des situations vraiment pas le fun parce que tout le monde en veut plus au lieu d'être capable de produire par eux-mêmes. Les Earthship, c'est les années 70, puis c'est Nouveau-Mexique, donc c'est aux États-Unis. Puis c'est à 7500 pieds d'altitude, donc c'est des températures arides, très, très froides. Donc, au niveau de la température, c'est quand même similaire à ici, sauf que c'est là-haut, c'est désertique, contrairement ici, humide. Fait que les plus gros facteurs qu'il fallait considérer, c'était vraiment l'humidité, la gestion de l'humidité. Puis comment ramasser l'eau de pluie, ben nous, en fait, ici, c'est beaucoup plus facile qu'eux, parce que bon, eux, c'est le désert. Fait que oui, effectivement, donc moi, ma mission, là, ça a été dans les dernières années, comment on fait pour utiliser la même philosophie puis l'adapter au Québec. Puis ce que j'ai fait pour le faire, c'est qu'on a rencontré à peu près tous les spécialistes dans les différents aspects du Québec en gardant la même philosophie de base. Et puis, on a commencé à construire, de designer, concevoir des maisons qui pourraient avoir des performances similaires. C'est sûr que, vu qu'on commence, eux, c'est 40 ans plus tard. Eux autres, en 70 à 2010, par exemple, ils ont évolué énormément. Nous, on part de là, fait qu'on a beaucoup d'informations, mais il faut... C'est un petit processus avant d'atteindre les mêmes performances. Mais notre objectif, c'est ça, hein, des maisons qui sont beaucoup plus autonomes. Puis ça, c'est quand même assez facile. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est pas vraiment plus cher qu'une maison traditionnelle. Puis après ça, ben là, l'autre niveau, pour ceux qui ont le goût de se donner le défi supplémentaire, ben là, on peut aller chercher des certifications beaucoup plus avancées. Fait que nous, dans le fond, la compagnie, ce qu'on fait depuis le départ, c'est vraiment l'éducation, fait que c'est les formations. Puis il y a des étudiants des cours qui ont construit leur propre maison, parce que nous, on n'est pas des entrepreneurs généraux. Quand on est revenu de là-bas, on avait de la nouvelle information, on avait plein de trucs cool, sauf qu'on n'avait pas... on n'avait pas un background d'entrepreneur général. Fait qu'on s'est pas lancé en construction tout de suite. D'ailleurs, pendant 3 ans, on a juste offert des cours. Puis là, on vient d'offrir les plans. Fait que depuis septembre cette année, on offre les plans en plus. Dans la plupart des cas du résidentiel, un technologue suffit, ce qui fait que les plans sont justement moins chers. Ça, c'est le fun. Si on a besoin d'un architecte, on peut en avoir un pour eux aussi, si c'était une complexité là, qui faisait que ça requiert un architecte. Puis après ça, nous, c'est ça. Soit ça peut être un autoconstructeur, fait qu'on lui donne juste le plan puis il peut construire par lui-même, ou on peut l'aider à trouver un éco-entrepreneur qui va faire. Parce que c'est sûr, un entrepreneur général traditionnel pourrait faire la job, parce que c'est un plan qui respecte le code et tout ça. Sauf que c'est sûr, s'il n'est pas habitué avec ces isolations vraiment plus performantes-là, puis l'étanchéité et tout ça, ça se peut que tu aies un vraiment bon plan puis une performance qui ne suit pas exactement le plan si ça n'a pas été bien fait, là. Chauffage bioclimatique, c'est-à-dire qu'il va utiliser une très bonne isolation, une étanchéité, la masse thermique et le solaire passif pour réduire la consommation d'énergie de 50 à 80 % en partant. Collecte de l'eau pluie pour, si la personne le désire, ça peut être juste pour la laveuse et la salle de bain, je parle spécifiquement de la toilette. Puis ça peut aller jusqu'à la douche aussi, mais ça, c'est ce qu'on consomme le plus, ce qui consomme le plus d'eau. Fait que quand on règle déjà ça avec l'eau pluie, c'est énorme. Ça peut aller jusqu'à une autonomie comme à Taos qui filtre toute l'eau, là. Fait que pour l'eau. Puis sinon, on a la production de nourriture qui peut être vraiment intéressante, c'est-à-dire on fait juste ajouter une serre adjacente. Puis tout dépendant de la personne, si c'est un jardinier dans l'âme, tu sais, il y a le pouce vert, bien, il peut produire beaucoup ou moins si c'est quelqu'un qui voudrait plus avoir des plantes qui sont le fun à côtoyer puis qui sentent bon puis des choses comme ça. Fait que pendant longtemps, nous, c'est ça, quand on faisait les formations, puis c'est ça qu'on continue à faire. Quand on fait les formations, on donne toute l'information pour ceux qui auraient le goût de se construire des maisons à pneus. Il y en a quelques-unes qui se sont construites au Québec. La seule chose, c'est que c'est impossible dans du clé en main. Fait que c'est vraiment pour l'autoconstructeur seulement. Un petit peu comme même la paille, même le chanvre. Il y a paille et chanvre, il y a quelques possibilités d'avoir un autoconstructeur qui l'aide, mais c'est pas aussi facile que dans du traditionnel, bien sûr. Fait que les pneus, vu que c'est pour les fondations, c'est possible de le faire, mais ça va être dans un contexte d'autoconstructeur. Fait que nous, on va en parler dans les formations. Si les gens ont le goût de le faire, on les encourage à le faire. S'ils veulent faire du clé en main, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire tout ce processus-là, nous, on va recommander les fondations dalles monolithiques en ciment, puis après ça, avoir des murs en cellulose, double ossature. Fait que comme ça, ce qui est le fun, c'est que c'est quand même des matériaux naturels et recyclés. La cellulose, c'est du papier journal recyclé, ce qui est ça l'objectif. Sauf que c'est sûr qu'il n'y aura pas les pneus là, d'inclus le recyclage de pneus qui est quand même vraiment intéressant aussi.
Pour avoir plus d'informations sur Solution ERA, visitez solutionera.com.
Comme les chaumières sont à l'honneur aujourd'hui, on ne pouvait laisser dans l'ombre cette demeure enchantée. Dire que Michelle et Larry, la propriétaire constructrice, a bâti sa maison avec amour ne serait pas tout à fait juste. Elle l'a bâti avec un amour qui respire une magie féerique et beaucoup d'énergie. Cette œuvre d'art a été construite il y a 30 ans. À 2 personnes en moyenne, il aurait fallu une 20aine de mois de travail pour terminer la maison. La cave, ainsi que les murs, sont faits de bois cordé. Le maximum de matériaux a été récupéré, portes, fenêtres. Michelle et Larry estiment qu'à l'époque, ça lui a coûté environ 35 000 $, toute récupération comptée. Selon elle, on peut compter le double, voire le triple, pour une construction semblable aujourd'hui. La base de la guinguette est de 20 pieds par 20 pieds, c'est-à-dire 400 pieds carrés. Le solage, construit le premier été avec son professeur, François Choignard, est fait de bûches de cèdre de 20 pouces de long. Toutes les bûches ont été parées de clous aux extrémités, ce qui fortifie le joint de mortier. Il montait les murs de 3 pieds maximum à la fois pour assurer un bon séchage. À la fin de la journée, le travail était recouvert de toile pour les protéger. L'été suivant, ce fut le tour de la partie principale, cuisine et chambre. Avec une amie, elles ont continué ce grand tricot. Elle n'avait pas de plan initial, discutait sur le chantier des transformations et s'en laissait aller dans toutes les fantaisies. La seule contrainte était de garder les murs bien d'aplomb pour supporter le toit. Quelques conseils de cette sympathique dame: commencez petit, avec beaucoup d'ouverture. Comme ça, si on veut agrandir par la suite, on peut toujours le faire sans avoir à démolir une partie de mur. Se renseigner aussi auprès d'Hydro-Québec. Ils ont parfois des poteaux de cèdre à bon prix. La guinguette est devenue un petit gîte champêtre où on peut aller déguster la cuisine gastronomique de Mme Hillary, faite à partir de cultures et d'élevages locaux. Son cachet mystique en fait un endroit parfait pour tout oublier, à part le bonheur de vivre, de sentir le parfum des fleurs, d'en admirer les couleurs. Sous les couettes duveteuses, les rêves sont doux et romantiques. Toute la minutie, la patience et l'amour du travail confèrent à cette maison de bois cordé une beauté chaleureuse, mais aussi impressionnante.
Texte de Julie Francoeur, tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Marie-Claude Journeau.
L'étude menée par le Centre de recherche en santé mentale de l'Institut Douglas rapporte que 3016 personnes étaient en situation d'itinérance visible à Montréal durant la nuit du 24 mars 2015. En octobre de la même année, les principaux décideurs œuvrant dans le domaine de l'itinérance à Montréal se sont réunis à l'occasion d'un panel. Le but? Trouver ensemble des solutions pour mettre fin aux problèmes de l'itinérance. Un des principaux freins qui a été identifié par les dirigeants est le mythe selon lequel l'itinérance serait chronique et donc impossible à éradiquer. Or, il semble que d'après les résultats de l'étude menée par le Douglas, le phénomène de la chronicité n'affecterait qu'une faible partie de la population itinérante. En effet, selon le témoignage de Matthew Pierce, directeur de la Old Brewery Mission, seulement 5 % des itinérants qui fréquentent la mission seraient en chronicité. 80 % seraient des itinérants de passage et 15 % seraient épisodiques, c'est-à-dire qu'ils se rétablissent un temps puis récidivent. Aussi, qui sont ces 5 % ? Vraisemblablement, ce sont les oubliés du système. Ils sont parmi les plus vulnérables de la société. France Desjardins, directrice de la Maison du Père, fait un portrait de la situation.
Une chose qui me préoccupe encore plus, c'est, vous savez, on parle souvent de l'itinérance cachée, mais il y en a une qui est très visible et qui reste dans la rue et qui ne vient pas dans nos institutions. Alors, aller parler à ces gens-là qui ont fait de la rue leur univers, et d'essayer de trouver une façon pour eux de vivre de façon plus confortable et puis eux, peut-être que c'est leur décision de rester confortable, mais je pense qu'on va convenir que probablement que ces gens ont des graves problèmes de santé mentale. Ils sont très à risque dans la rue avec le climat que nous connaissons, entre autres. Et puis, c'est pas facile, là, la vie dans la rue. Alors, ça, c'est un fait très préoccupant.
Or, on apprend que plusieurs d'entre eux souffrent de toxicomanie ou d'un problème de santé mentale quand ce n'est pas les deux, ce qui les rend, pour ainsi dire, non éligibles au programme d'hébergement offert. Ce problème n'est pas unique à la ville de Montréal. plusieurs villes d'Amérique, Toronto, Calgary, Vancouver, Boston, Philadelphie, New York, pour ne nommer que celles-là, ont identifié le même problème. Aussi, dans les années 90, un programme de logement, le Housing First, basé sur une philosophie de l'inclusion, a été créé à New York. Il s'agit d'un changement radical de perspective. Le principe étant que les personnes itinérantes aient accès à un logement sans condition. Jusqu'à présent, des logements étaient offerts à ceux qui avaient atteint un certain niveau de rétablissement. En fait, on ne leur offrait pas de logement avant qu'ils aient démontré certaines aptitudes de vie. En 2009, tirant profit des données recueillies du modèle accordant la priorité au logement Housing First, le gouvernement fédéral a mis le projet à l'essai à travers le Canada sur une période de 4 ans. Au Québec, 460 personnes ont été mises à l'étude, dont 280 ont reçu un logement. En mars 2013, date de la fin du projet, 80% de ces personnes habitaient toujours leur logement initial. Au moment d'enregistrer ces lignes, on ne sait pas exactement où on en est avec le projet chez soi pour ce qui est du Québec. Ce sera donc à suivre sur le site de l'organisme CREMIS, responsable du projet pilote.
Le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, CREMIS, peut être rejoint au cremis.ca. C'était un reportage de André Cousineau.
Donc finalement, je me suis dit, elle répond aux besoins élémentaires. Donc ça, c'est un petit peu la pyramide d'Abraham Maslow. Je suis allée chercher davantage et en fait, cette pyramide, elle a 5 besoins essentiels, enfin, qui sont les besoins physiologiques, donc le sommeil par exemple, la sexualité, la faim, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les 4 premiers besoins peuvent être quelque part remplis par la chaumière. Que le besoin physiologique de sommeil, pour avoir un bon sommeil, il faut un lieu où on puisse aller dormir.
Sécuritaire.
Et idéalement sécuritaire. Mmh. C'est aussi le lieu où on va rencontrer son amante, c'est le lieu où on va aller par la suite. Ça correspond, bien, comme on l'a dit, au besoin de sécurité. Il faut qu'on aille un lieu où on sent qu'on ne peut pas être forcément dérangé, qu'on peut avoir une certaine intimité, un certain retrait. C'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu d'appartenance et d'amour. puisque c'est là où on va construire sa famille, c'est là où on va inviter aussi nos amis, qui se reflètent un peu de nous-mêmes, de façon à pouvoir partager qui on est avec les autres. C'est pas seulement l'essentiel, c'est aussi, on donne toujours une petite personnalité à un environnement. Donc là, l'appartenance et l'amour viennent d'être comblés, et par conséquent, l'estime de soi aussi renforcée. Donc le quatrième besoin essentiel, la confiance, la reconnaissance, être extrapolé à l'intérieur de cette chaumière.
On peut dire qu'au Québec, il est particulièrement important d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Pourtant, certains ménages galèrent de plus en plus pour se loger. Selon Statistique Canada, 2 ménages sur 5 dépasseraient ce que l'on appelle le seuil d'abordabilité pour leur logement. On parle ici d'allouer plus de 30% de nos revenus à notre logis. Ces dépenses regroupent le loyer, les frais d'électricité, le chauffage, l'eau ainsi que les autres services municipaux. Mais y a-t-il des solutions à la portée de ces ménages pour descendre sous ce seuil? Voilà ce que leur permet le logement social. Mais qu'est-ce qu'on entend par logement social? A priori, on parle de logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé. 3 branches sont incluses dans le logement social: les habitations à loyer modique, ou HLM, les coopératives d'habitation et les organismes sans but lucratif d'habitation. Les HLM sont des logements à propriété publique. Ils sont gérés par les organismes municipaux d'habitation et normalement, ils offrent différents services et accès à plusieurs programmes gouvernementaux. Ils ont aussi la particularité d'ajuster leur loyer à 25% du revenu de leurs occupants. Il en existe un total de 510 répartis à la grandeur du Québec. On peut les retrouver sur le site Internet du Regroupement des offices d'habitation du Québec. Malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que cette branche est la panacée pour les problèmes de logement. Mais la réalité, c'est que la demande d'HLM excède largement l'offre. Si on prend l'exemple de Montréal, l'OMHM reçoit plus de 24 000 demandes par année, alors que seulement 2 000 logements se libèrent pour la même période de temps. Les attentes sont donc longues et une priorité donnée aux ménages qui sont en situation d'urgence. Pour ce qui est des coopératives d'habitation, les membres en sont collectivement propriétaires en plus d'être locataires. Ils sont responsables de la gestion, de l'entretien de leur bloc et doivent participer à leur assemblée générale. Cette dernière est établie prix des loyers qui sont sous ceux du marché. Les locataires ayant de faibles revenus peuvent obtenir des subventions pour arriver à un seuil de 25%. Mais le nombre de subventions va aller à la baisse puisqu'en 2014, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont décidé de couper dans Accès Logis Québec et le programme d'aide à la personne, respectivement. Il est intéressant de noter que chacune des coopératives traite elle-même les demandes de logement qu'elle reçoit et choisit ses membres en fonction de ses critères. La dernière voie pour nos ménages en difficulté sont les OSBL. Elles sont regroupées sous la bannière du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Ici, tous les logements sont la propriété de l'organisme. De manière générale, le conseil d'administration est constitué des locataires et d'intervenants du milieu. Tout comme les coopératives, les loyers sont déterminés par l'organisme et sont sous ceux du marché. Les locataires à plus faible revenu peuvent obtenir des subventions et ces derniers sont choisis par chacun des organismes. Mais encore ici, les derniers budgets sabrent dans les programmes de financement public et l'ajout de nouvelles contraintes ajoute du poids sur celles-ci. Au final, on peut dire qu'il y a des solutions pour se trouver une chaumière abordable et réconfortante au Québec, qu'elles sont intéressantes pour l'avenir, mais insuffisantes. Il reste à savoir si nous sommes prêts à réinvestir dans nos communautés afin d'éviter que certains dorment dehors en plein hiver.
Texte et narration de Arnaud Choquette.
Je dois quitter ma vieille maison accrochée à flanc de coteau, de mon petit mont sans nom, à 100 000 à l'est du vôtre royal. Le mien, à risque de décapage imminent, promoteur à l'affût aidant, alerte à l'appétit payant des 3 fois plus riches qu'avant la crise, boomers vieillissant de la bile, rêvant de promontoires dignes de leur gloire, attaque ma forêt, vieille de 100 millions d'années, peu à peu effoirée en pitounes à rabais, aplanie, dérochée, bêtes et végétaux éradiqués. Digression nécessaire, pardon, revenons donc à ma vieille maison. Ma cabane retapée était craquelée, solitaire mais au perché, collé sur la forêt, tranquille pour écrire, exposé aux 3 vents et aux couchants, surpris plombant la plaine bardée de bungalows, de jeunes couples endettés à l'os. De là-haut, mon fort provisoire, je scrutais la vallée par-delà mon clavier, entouré du strict nécessaire, intérieur dépouillé, que des vieilles affaires récupérées, reliques du passé, d'autres trépassés, la plupart relégués au garage, faute d'espace. Et la minoune dehors, engin nécessaire pour s'évader du terrier, quand guette le délire du solitaire. Dans le soubassement, à l'image du subconscient déclassé, amas d'images signifiantes mais éventées du passé, genre panneaux électoraux, désuets ou pas, l'avenir seul va le dire. Oui, ça devient possible, soyons lucides, votons solidaire, ou encore vote green or die. Sur un mur, œuvre sublime de mon vieux pote PO, étiqueté maniaco à tort, mort à 40 ans d'overdose médicamenteuse. Dans un coin, séchoir démonté, faute de plantes rares à sécher. Anyway, vente sans NPN, désormais interdite par Santé Canada. Affiche élimée de mes bouquins maintenant pilonnés, et tous ces autres livres boudés mais stockés au cas où, révérés par la pseudo-cancre qui n'y avait jamais accès avant. Carton humide plein de notes de cours, d'écoles en faillite, et mini-vélo des petits partis. C'est la vie. Assez soliloqué, après 3 décennies d'exil, l'intello précaire que je suis, que je fus, avait besoin de se rapprocher de ses semblables humains, s'alléger, posséder de moins en moins, explorer l'insondable, trouver de nouveaux mots et des idées à échanger, encore changer. Maison à vendre, prix abordable, vue imprenable, à jeune couple motivé, bricoleur, silence garanti.
Un texte de Annie Schneider du nom de Garage Slam. C'est ce qui conclut le 23e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci, car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez 2 secondes pour venir nous visiter, nous vous offrons l'hospitalité. Écrivez-nous sur laplumedefeu.com, sur Twitter ou via Facebook.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramée, de Guillaume Lambe,
Alexandra Vincent, Aurélie Suberchico, Pierre Charpioz, Jean-Baptiste Gardarin, Arnaud Choquette, Marie-Claude Journeau, Annie Schneider et André Cousineau.
Suggestion musicale de Maurice Bolduc.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramée et Guillaume Lambe.